Bon, première question. On a de l'information de la part du personnel à l'intérieur de la résidence de la GAP à l'effet que il y a des bénéficiaires qui sont demeurés longtemps dans des couches souillées en raison de manque de personnel et qui ont aussi dû sauter des repas en raison du manque de personnel. Si vous ne pouvez pas nous confirmer ces informations, pouvez-vous nous confirmer qu'il va y avoir une enquête là-dessus?
Ce n'est pas de l'information qu'on a eue. Nous, ce qu'on a comme information, c'est que les gens ont eu leur repas comme prévu, les repas trois fois par jour, les collations et tout ça. Donc, comme ce qui est prévu normalement dans le milieu. Donc, ce que vous me rapportez, on va le vérifier. Au niveau des culottes d'incontinence, les gens ont été changés comme prévu. Peut-être qu'il y a eu certains délais. Jusqu'à quel point il y a eu des délais, là, ça, je suis en mesure de vous donner de l'information là-dessus. Mais si vous me faites mention qu'il y a eu des situations particulières comme ça, nous allons faire le suivi et faire l'enquête pour bien comprendre ce qui s'est passé.
Sous question, vous avez fait une nomenclature des personnes qui sont venues prêter main-forte, dont des gestionnaires, cadres, infirmières, spécialistes de l'hygiène, travailleurs sociaux, etc. Et vous avez dit, nous leur avons été prêtés main-forte pour faire les choses selon les règles de l'art. Est-ce que ça veut dire que lorsque vous êtes arrivé là, ça ne se faisait pas selon les règles de l'art?
Non, pas du tout. Vous comprendrez que dans le contexte où il y a quand même un grand nombre de personnes qui est COVID positif, dans le contexte aussi, on veut s'assurer que les choses sont faites correctement et non pas parce que, bon, vous savez, à chacune des chambres, les gens doivent s'habiller, se déshabiller, il y a des procédures à respecter et on ne veut pas qu'il y ait de bruit de procédure pour que les gens se contaminent. Pour nous, c'est super important. Donc, ce que je dis, c'est pas que les choses n'étaient pas faites correctement, mais au contraire, c'est comment on est en soutien pour s'assurer que les choses sont faites correctement dans le contexte où on a un plus grand nombre de gens qui sont COVID positifs et comment on prête tout le monde met l'épaule à la roue justement pour que les choses soient faites correctement.
Merci.
Donc, je vais maintenant passer à Caroline Scott de TVA.
Oui, est-ce que vous m'entendez?
Oui.
OK. Alors, deux questions de mon côté. En fait, c'est pour revenir là du côté des climatisations dans les CHSLD, juste pour bien comprendre. Là, je vois qu'il y a des mesures qui vont être mises en place. Dans certains cas, on parle que ça pourrait survenir au cours des prochains jours. On s'entend que la chaleur accablante, c'est au cours des trois prochains jours. Alors, en ce moment, qu'est-ce qui est fait concrètement? Là, je comprends bien, là, c'est installé pour ce qui est des ventilateurs, par exemple, quoi que ce soit, c'est installé dans l'immédiat. Je veux juste en être certaine pour, évidemment, protéger les résidents et le personnel. Et sous question, il y a le port d'équipement également qui est obligatoire pour le personnel. Je parle des masques, des visières, des habits, etc. Qu'est-ce que la santé publique recommande là, pour éviter justement les complications à ce niveau-là?
Alors, je peux faire peut-être le premier bout sur l'installation. Donc, les équipes sont à pied d'œuvre. Comme je vous dis, on a reçu les recommandations de l'INSPQ hier. Donc, dans l'application des protocoles soumis, nos équipes sont à pied d'œuvre pour démarrer les climatiseurs, je vous dirais, sans trop. Maintenant, ce qui se fera dans les prochains jours, ce sont les installations individuelles. On a 1100 places au 6 de l'Outaouais, au CHSLD, dans nos 14 installations. Donc, ce sont les climatiseurs individuels qui se feront progressivement avec nos équipes là, dans une installation fenêtre, si je peux le dire ainsi.
Très bien. Là, j'avais la sous-question aussi. Là, évidemment, là, de notre côté, pour les CHSLD, là, on s'entend qu'il y a quand même des résidents qui pourraient avoir chaud là, au cours des prochaines heures, là, parce que ça va se faire. Je comprends que vous avez eu l'information là, hier et tout ça, mais il y a quand même un certain délai qui est en prévoir à ce niveau-là.
Comme je vous dis, on est à pied d'œuvre pour faciliter le tout rapidement. Ça fait partie de les équipes sont mobilisées à procéder. Le démarrage se fait quasi instantané, vous comprendrez, de nos systèmes. Il y a beaucoup d'endroits où il y a des systèmes centraux qui ne sont pas nécessairement dans les chambres, qui sont dans les aires communes ou encore les corridors. Par contre, l'installation de climatiseurs à la fenêtre, c'est cette opération-là qui va se poursuivre dans les prochains jours, considérant qu'on parle d'un volume important.
Oui, juste avant d'aller à la sous-question, j'ajouterais des éléments complémentaires à ce que Mme Daou a apporté. On parle d'installation des climatisants, mais pour moi, toutes les recommandations que Dr Pinard a faites tantôt, ne serait-ce que le volet de l'hydratation, des lingettes, des débarbouillettes froides et tout ça. Ça fait partie des choses aussi qu'on met en place dans nos, des mesures, dans le fond, complémentaires dans nos différents milieux, parce qu'on sait qu'il y a des personnes âgées qui ne tolèrent pas l'air climatisé. Donc, on met toutes les autres mesures en place pour s'assurer justement que les résidents soient le mieux, le plus confortable possible dans un environnement qui, pour nous, devient intolérable, mais pour eux qui sont bien et tout ça. Donc, il faut mettre les mesures complémentaires. Alors, je laisserai maintenant Dr. Pinard répondre à la question.
Oui, mais en fait, c'est ça, je soulignerais aussi l'importance de prendre un ensemble de mesures pour s'assurer du confort, en fait, des usagers et aussi du personnel. Lorsqu'on vit un des temps plus chauds, c'est important, en fait, de garder tous les environnements le plus frais possible. C'est vraiment notre recommandation de base. Aujourd'hui, en fonction des prévisions météorologiques que nous avons, nous avons mobilisé en fait l'ensemble d'établissements, de six au complet, pour qu'on puisse travailler en collaboration avec les différentes directions pour le suivi des conditions du personnel, mais aussi bien sûr des usagers dans nos établissements, puis aussi dans la communauté.
Merci.
Donc, je vais passer à Justine Mercier du Journal de droit.
Oui, bonjour. J'aimerais aussi parler de la vague de chaleur, particulièrement pour les centres d'hébergement. J'aimerais savoir, on sait qu'auparavant, les aires communes qui étaient climatisées pouvaient être utilisées pour y amener les résidents pour qu'ils obtiennent quelques moments de fraîcheur. Est-ce que vous allez pouvoir amener des résidents quelques dizaines de minutes, peut-être un à un, pour qu'ils puissent avoir accès à ça? Parce que, de ce que je comprends, s'il n'y a pas de climatisation dans les chambres directement, la température, je ne sais pas si vous avez une mesure de combien il fait en ce moment dans les chambres de CHSLD, mais ça doit grimper assez rapidement. Puis l'autre chose, j'aimerais valider des informations qui m'ont été données par le syndicat des professionnels en soins à l'effet qu'il y a actuellement des attaches communément appelées des tie wraps sur les pales des ventilateurs, des plastiques sur les appareils de climatisation pour empêcher de les faire fonctionner présentement, de sorte que le personnel et les résidents ont pas mal chaud.
Bien, en fait, vous dire au niveau, bien sûr, quand il y a des espaces communs, ce sera dans le respect des protocoles et des consignes de distanciation sociale afin que les gens puissent aller effectivement se rafraîchir à une distance de 2 mètres, là, lorsque la condition de l'usager le permettra, dans le but aussi d'éviter la propagation de gouttelettes et tout ça. Mais en ce qui a trait à vos commentaires sur les tie wraps et tout ça, là, je suis pas au fait, comme je vous dis, les équipes techniques sont à pied d'œuvre à faire la tournée de toutes nos 14 installations pour procéder au démarrage des systèmes qui étaient hibernisés jusqu'à hier, là, en attendant des consignes.
Parfait. Donc, je vais maintenant passer à Marc Beaudoin de CHGA. Marc, est-ce que tu es en mesure de nous poser ta question? On y reviendra. Donc, je vais maintenant donner le droit de parole à Mme Audrey Roy de Radio-Canada.
Voilà, est-ce que vous m'entendez?
Ah oui, nous entendons bien, oui.
Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui, on vous entend. OK. On va revenir à M. Beaudoin un peu plus tard. Donc, je donne la parole maintenant à Audrey Roy de Radio-Canada.
Parfait. Vous m'entendez?
Oui.
Merveilleux. Juste une précision, c'est ça, entre autres, le syndicat des travailleurs aussi qui mentionnait que les climatiseurs avaient été arrêtés hier et redémarrés ce matin suite à leur intervention. Vous dites que les systèmes étaient toujours en hibernation. Est-ce que c'est vrai de dire que les systèmes ont été arrêtés hier? C'est une directive que vous aviez reçue?
De mon côté, c'est pas une information que j'ai à savoir si les systèmes ont été arrêtés hier soir et repartis ce matin. Là, bien honnêtement, c'est pas le niveau de détail que j'ai en ce moment.
Très bien. Puis, est-ce que vous avez des données au sujet de le nombre de la proportion de chambres qui sont ventilées ou qui ont l'air climatisé dans la CHSLD là, de l'Outaouais?
Je vous dirais que c'est quasi nul en termes de climatisation dans les chambres. C'est davantage des aires communs que nos CHSLD ont comme climatisation et on procède à des installations d'appareils portatifs dans les chambres, au gré des demandes des familles et des résidents.
Avec un extra, donc, ils doivent payer un supplément pour avoir la climatisation, c'est ça?
Effectivement.
OK.
Je vais maintenant passer à Hélène Desgranges du journal de la Basse-Lièvre.
Oui, bonjour. En fait, Basse-Lièvre, mais aussi je travaille pour l'Info de la Vallée. Mes questions vont dans le sens que les barrages, et même avant les barrages, il y a beaucoup de gens depuis un mois là, qui sont dans les régions, qui sont revenus. Et ça ne concerne pas la chaleur, mais la chaleur va les amener encore davantage et l'ouverture des campings. Est-ce que vous m'avez dit, bon, les tests, etc., pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cas supplémentaires dans nos régions alors qu'il y a un paquet de gens de l'extérieur, de Montréal, de l'Outaouais qui sont rendus ici? Est-ce que vous prévoyez, par contre, utiliser des méthodes différentes? Je sais que dans les Laurentides, pour avoir un cas réel, ils pensent qu'ils vont se déplacer des produits. Donc, je veux savoir comment vous allez vous assurer d'avoir dans nos régions, Vallée de la Gatineau, Basse-Lièvre, mais aussi Petite Nation, etc. Et puis aussi, ma deuxième question, c'est pour savoir comment vous gérez les tests. Je sais que les gens qui sont dans les services hospitaliers semblent recevoir leurs résultats de tests plus rapidement. J'ai des enseignants qui ont été testés et qu'on leur a dit que ça pourrait prendre de 5 à 7 jours avant d'avoir les résultats. Considérant qu'ils rencontrent plusieurs autres enseignants et des élèves, est-ce que vous trouvez ça adéquat d'attendre aussi longtemps et pourquoi ils ne sont pas jugés prioritaires?
OK. Donc, au niveau de notre stratégie de test présentement, nous suivons l'approche provinciale. Premièrement, toutes les personnes qui ont des symptômes associés à la COVID-19 ont accès aux tests et nous encourageons toute personne avec des symptômes d'appeler au 1-877 pour faire un suivi et avoir un rendez-vous pour se faire tester. Ça, c'est très important partout dans la région et le test est accessible aussi sur l'ensemble du territoire. Ensuite, au besoin aussi, lorsque nous pensons qu'il y a un milieu d'hébergement, un milieu de soins, ou ça pourrait être aussi un autre milieu comme un milieu de travail, où on pense qu'il y a un agrégat ou quelques cas confirmés dans un milieu, nous allons de l'avant avec une approche de dépistage élargie pour mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu et aussi mettre en place les mesures de contrôle. Et une autre approche que nous avons, c'est que depuis quelques semaines, nous encourageons toutes les personnes qui sont des contacts étroits de cas confirmés de se faire tester, même si ces personnes n'ont pas de symptômes. Donc, c'est des personnes asymptomatiques. Nous encourageons aussi à aller passer un test de dépistage pour justement vérifier s'il y a eu transmission du virus et si oui, de pouvoir ensuite aller plus loin dans la recherche de cas et le contrôle de la transmission virale. Donc, nous avons en place présentement ces stratégies pour faire le suivi de la transmission dans la communauté et en fonction des orientations provinciales, il est possible que dans les prochaines, nous apportions aussi des changements. Mais pour l'instant, c'est l'approche que nous avons.
Parce que vous comprenez qu'il y a des gens qui sont très, très loin des cliniques de dépistage. Ce qui est craint dans les régions, c'est que ces gens-là ne se déplacent pas aux cliniques, donc que vous ne sachiez pas les cas réels. Est-ce que vous avez cette pensée-là? Parce que vous me dites qu'il y aura peut-être des nouvelles orientations, mais est-ce que vous aussi, vous êtes conscient de cette réalité-là des régions?
Okay. Écoutez, je pense que le premier message clé pour moi, c'est que si quelqu'un pense avoir les symptômes, j'encouragerais vraiment à appeler le 1-877. Et s'il y a des enjeux en termes d'accès géographique au test, de le mentionner. Si on pense, oui, qu'il y a un enjeu d'accès, ça pourrait être une approche qui est considérée aussi pour notre région.
Je vais me permettre d'ajouter de l'information concernant les tests de dépistage. Le test de dépistage ne se fait pas seulement en région urbaine à Gatineau. Le test est accessible là, dans l'ensemble du territoire, donc chacun des réseaux locaux de services, que ce soit dans Papineau, que ce soit dans Vallée de la Gatineau ou dans le Pontiac, chacun a un point de service pour justement avoir accès au dépistage. Donc, les gens n'ont pas à se déplacer vers Gatineau. Ça faisait partie des éléments de préoccupation, vous l'avez nommé. Ce qu'on veut, c'est que les gens aient accès au dépistage. Et je voudrais réitérer aussi un message important lors du dernier point de presse, aussi, ce qui a été mentionné, que les clientèles contact étroit asymptomatiques sont dépistées. Donc, c'est des changements importants qui ont été faits pour justement aller chercher un plus grand nombre de personnes qui pourraient avoir contracté le virus de la COVID. Donc, ça fait partie des actions qu'on a mis en place. Puis, je vous rassure, on fait tout ce qu'on a à faire justement pour s'assurer du dépistage. Alors, encore quotidiennement, on en fait plus de 150 par jour. Donc, le dépistage se fait dans les régions, c'est disponible, c'est accessible. Alors, les gens, s'ils ont des doutes, qui communiquent avec le numéro de téléphone, on pourra à ce moment-là leur donner un rendez-vous.
On va passer à Jean-Daniel Potier du bulletin d'Elmer. Monsieur Potier, vous pouvez activer votre micro et poser votre question.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
OK, oui. C'est que vous mentionnez sur votre site web qu'il y a des inclusions dans 4 CHSLD, notamment le Lionel Aymon puis celle à Papineau. Je veux juste savoir quelle sorte d'informations avez-vous comme en statistique pour la CHSLD à Elmer?
Au CHSLD d'Elmer, il n'y a pas d'usager qui a la COVID de positif au moment où on se parle.
OK. Puis je veux juste savoir, est-ce que vous pouvez me donner des exemples pour votre protocole donné par la santé publique pour garder les résidents de CHSLD confortables avec la chaleur qui s'en vient?
Comme je vous dis, ça fait partie de la routine de soins, d'hydratation continue des résidents. De les amener vers des zones un peu plus froides s'ils le désirent. Mais c'est une routine de soins. Je voudrais que souvent nos gens, autant que nous, on a chaud, eux, ils sont confortables la plupart du temps là, dans les espaces qu'ils sont. Ils n'ont pas le même, la même. Ils sont beaucoup plus tolérants que nous parfois dans des degrés plus élevés, mais c'est vraiment de l'hydratation continue, c'est la clé du succès.
Merci beaucoup pour vos informations, Mme Daou. Je vais maintenant passer à M. Sylvain Caron de TVC Basse-Lièvre. M. Caron, oui. Est-ce que vous êtes
là? Oui, je suis là. Donc, ma question s'adresse à Mme Filion. Vous avez engagé beaucoup de personnel récemment pour aider dans les centres hospitaliers, dans les CHSLD et compagnie. Et donc, on me dit qu'il y en a beaucoup qui vont quitter après 1, 2, 3 quarts de travail, même une semaine. Jusqu'à quel point on est capable de retenir ces nouveaux employés-là? Et est-ce qu'on a des statistiques à savoir qui reste sur le nombre qu'on engage?
Je vous dirais que c'est des informations qu'on suit. Il y a des gens qui ne s'attendent pas de voir les profils de clientèle qu'on a dans nos CHSLD, de voir la condition de santé de nos gens. Donc, certains sont trop affectés de voir nos personnes dans cet état de santé-là, excusez-moi. Mais toutefois, ce qui est plus important de dire, c'est qu'au contraire, on a un grand nombre de personnes qui sont venues nous prêter main forte, qui ont de l'intérêt pour s'inscrire dans des programmes santé et services sociaux. Pour moi, c'est un élément important. Ça démontre qu'il y a de l'intérêt pour les professions en santé et services sociaux. Vous vous rappellerez au début, dans les premiers points de presse, c'est ce que je mentionnais. Je me disais, je suis certaine que je vous mentionnais qu'à court, moyen et long terme, nous aurons un effet de ces gens-là qui sont venus nous prêter main forte. Et force de constater, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui lèvent la main en disant, moi, j'ai le goût de suivre des formations. Et on est en lien justement avec les maisons d'enseignement pour faciliter les programmes de formation pour que ces gens-là puissent s'inscrire dans les différents programmes. C'est clair qu'il y a des gens qu'on embauchait, qui quittent après un certain nombre de temps. Il y en a pour qui, parce que ce n'est pas nécessairement ce qu'ils s'attendaient. Et il y en a d'autres pour qui, ils retournent dans leur milieu de travail. Il y a eu le déconfinement des secteurs qui ont réouvert la retourner à leur métier de base, je vais le dire comme ça. Alors, je les remercie grandement. Remercie là, d'être venus prêter main forte au CIS de l'Outaouais. On avait un grand besoin, on a encore des grands besoins. Alors, j'invite les gens aussi qui ont encore le goût et de la disponibilité à venir prêter main forte chez nous. On les accueillera grandement.
Mais il n'y avait pas de chiffre précis à savoir combien il en reste présentement, ces nouveaux employés-là?
Je n'ai pas l'information sous la main. Je ne pourrais pas vous dire. Je ne peux pas m'avancer sur aucune donnée. Je n'ai pas l'information sous la main.
Parfait.
Merci. Donc, je vais maintenant poser la question de M. Marc Beaudoin de CHGA qui n'était pas en mesure de nous la poser de façon orale. Donc, je vais tout de suite aller avec sa première question. Vous avez expliqué les procédures générales. Oui, M. Beaudoin, est-ce que vous êtes là?
Oui, je suis là.
Ah, OK. On vous entend. Posez vos questions.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Oui.
Est-ce que vous m'entendez?
Oui.
Donc, ma première question, je sais que vous avez expliqué en général les mesures qui sont mises en place dans les centres, mais je voulais savoir s'il y avait une préparation particulière qui se faisait au niveau du centre Père-Guinard et au foyer de Gracefield.
Non, c'est dans le respect des autres protocoles comme ailleurs, effectivement.
Parfait, merci. Ma deuxième question, c'est, je voulais savoir s'il y a un plan qui est mis en place pour tester tout le monde comme ça se fait à Ottawa?
Bonjour. Pas pour le moment. Les tests, comme je mentionnais tantôt, sont dirigés vers les personnes qui ont des symptômes dans la communauté. Il nous arrive de dépister des personnes asymptomatiques, mais dans des contextes précis, soit que les personnes sont déjà reconnues comme des contacts étroits de cas confirmés, ou encore parce que nous sommes en train de mettre en place une intervention de dépistage élargi dans un milieu ciblé. Mais comme je disais, s'il y a un changement d'orientation provinciale, on pourrait avoir voir des changements là, dans la région.
Merci.
Je vais prendre une dernière question. Je vais revenir à Mme Desgranges de l'Info de la Vallée, la Basse-Lièvre, qui avait une autre question. Donc, Mme Desgranges, je vous invite à la poser.
D'accord, c'était ma deuxième question qui n'avait pas été répondue. En fait, les délais après des tests de dépistage pour les enseignants, on leur dit 5 à 7 jours avant d'avoir une réponse. Est-ce que vous trouvez ça adéquat? Pourquoi c'est comme ça? Est-ce que des mesures mises en place en attendant pour protéger les enfants et les autres enseignants, ça vaut quoi que la personne serait vraiment positive?
En termes de délai des tests, c'est en fonction du volume et des capacités de laboratoire. Donc, je ne suis pas en mesure là, de vous donner des délais précis. Par contre, toutes les personnes qui sont en attente de résultats de test reçoivent les mêmes consignes, c'est-à-dire de demeurer en isolement à la maison jusqu'à temps que le résultat du test soit connu. Ça, c'est pour tout le monde. Et comme je dis, je n'ai pas d'informations précises sur les délais. C'est certain qu'ils peuvent varier un peu d'une semaine à l'autre. Mais je sais que, bien sûr, les différentes instances font tout leur possible pour que les informations, les résultats soient communiqués le plus rapidement possible. Il y a par contre certaines personnes, entre autres, des personnes qui sont hospitalisées, qui sont bien sûr priorisées en termes de rapidité d'analyse de tests, je voudrais qu'en général, là, l'objectif, c'est de remettre les résultats de test le plus rapidement possible à toutes les personnes qui se sont fait tester.
Oui, mais ce que je veux savoir, c'est est-ce que dans les milieux, vous leur dites de désinfecter, par exemple, en attendant du moment qu'ils ont un cas possible pour pas mettre les autres personnes en danger dans les mêmes locaux? Est-ce qu'il y a des recommandations comme ça en attendant, vu que les délais sont pas toujours aussi rapides que vous le voudriez?
Oui, en fait, dans les milieux scolaires, par exemple, il y a déjà des procédures qui sont en place pour les milieux scolaires. Donc, les établissements suivent leur propre protocole.
Donc, fin à ce point, je vais remercier la question et la question où c'est pour ce point de temps. Donc, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée.
Merci.
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 Goodbye.